C'est l'épisode du baptême de Jésus dans le Jourdain, même si la fête c'était lundi dernier. Jean-Baptiste dit « Je ne sais pas, ce que je comprends c'est que je suis appelé à baptiser, je me trouve là dans cette dépression géographique, géologique du Jourdain, le lieu le plus bas de la terre, géologiquement 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Il y a quelques dépressions semblables en Chine, mais ce rift entre les continents asiatiques et africains et européens, juste là, dans cette vallée du Jourdain, fait qu'on a la dépression la plus profonde de la planète. Je me trouve là. Je ne connais pas encore celui qui va m'être indiqué, qui va nous être indiqué, qui va nous être manifesté à Israël dans le baptême. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'Esprit est descendu, descend sur beaucoup de gens, sur des prophètes, mais là, il demeurera sur lui. Voilà, quand il se présentera, elle, aujourd'hui on dirait il ou elle, se présentera là au baptême. Bon, je verrai, j'essaye de comprendre, de scruter ce qui m'est donné pour mieux comprendre ce qu'Israël attend. Israël qui, selon la première lecture, le chapitre 49 d'Isaïe, a une mission pour le monde, présenter la lumière au monde. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Une mission extraordinairement belle. En hébreu, la lumière, c'est or. Donc tu es appelé à apporter la lumière, l'or, la lumière dorée à toutes les nations, la lumière du salut. Toi, peuple, qui as une mission propre, et tu auras besoin... Voilà, je t'ai façonné, il le dit à Isaïe, pour que tu sois son serviteur, que tu rassembles Israël, que tu ramènes Jacob, pour que tu lui rappelles qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu, Dieu qui est sa force. Une mission, une promesse, quelque chose qui est propre à ce peuple, mais qu'il n'arrive pas à découvrir par lui-même. Il sait qu'il a une mission, et Jean-Baptiste sait aussi qu'il a une mission, mais l'un et l'autre a besoin de l'autre pour comprendre comment accomplir sa propre mission et découvrir sa propre promesse. Je me rappelle quand on était jeune séminariste en Italie, il y a une pastorale des vocations qui est très forte, qui était très forte dans tous les diocèses italiens, et avec des chants magnifiques, mais tout le monde se sentait appelé. Et c'est tant mieux, parce que l'un et l'autre est appelé d'une manière ou d'une autre par le Seigneur à trouver sa place, à découvrir sa promesse, la promesse qui lui est faite, et à trouver dans cette place qu'il discerne, peut-être là, au plus bas de la planète, comme Jean-Baptiste, à se laisser envahir par la grâce qui lui est propre, le don qui lui est propre, l'esprit qui lui est donné pour vivre avec joie son existence, sa vie. Donc c'est beau, c'était toujours très beau de vivre ces journées vocationnelles, toujours très beau. Avec des chants à chaque fois réinventés, il y avait des compositeurs qui se faisaient beaucoup de concurrence en Italie, concurrence positive, et c'était beau. On avait donc droit toujours au plus beau chant. Et alors, on avait tendance à s'appliquer, parce que le chapitre 49 d'Isaïe sortait souvent, à essayer de s'appliquer directement cette parole. Mais alors, c'est quoi ma vocation? Tu m'as façonné depuis le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. À quoi je suis appelé? On se l'appliquait, on était conduit à s'appliquer directement cette parole. Quel est l'appel? Quel est mon appel? Si j'existe, si je vis, si je porte un ADN propre et différent de l'autre, si j'ai une histoire différente de l'autre, je porte sans doute un mystère et une promesse, il me veut en existence. À quoi je sers? Comment est-ce que je pourrais être bon serviteur? Et comment trouver la joie d'exister avec ce que je suis pour le donner aux autres? Alors voilà, et avec le chant, avec la méditation, avec les autres jeunes, c'était plaisant de se poser la question. Mais les lectures aujourd'hui nous disent qu'on n'arrive pas à découvrir sa propre vocation sans l'autre. On a besoin de s'intéresser à l'autre. On a besoin de s'intéresser à l'autre. Israël, puisqu'il reçoit la promesse, c'est un autre que nous. Et dans l'histoire, l'Église qui a voulu s'appliquer directement ce passage, Isaïe 49, « Je ferai de toi la lumière des nations, tu as une mission, etc. » L'Église, au cours des âges, a compris qu'elle ne pouvait pas se l'appliquer directement. Et nous aussi. Parce que cette lettre est écrite à Israël, « Tu seras la lumière des nations. » Mais Israël l'a toujours compris comme dirigé à soi. Donc, même au Moyen-Âge, et au début du Moyen-Âge, avec la chute par les Vandales en Afrique du Nord, du monde chrétien, saint Augustin, au 4e, 5e siècle, se pose la question. Oui, mais maintenant, nous sommes tous Église, les religions d'État. Hors de l'Église, il n'y a sans doute point de salut. Alors Israël, là, les Juifs qui existent encore, quelle est leur mission? Ils n'en ont plus. Faut-il les éliminer? Vous voyez, c'était grave quand même, hein? Ces questions qu'on commençait à se poser au 5e siècle, un antisémitisme théologique. Faut-il les éliminer? Et Augustin disait, mais non, il ne faut pas les éliminer. Il faut qu'ils soient là comme anti-signe, signe de la malédiction. Donc il faut qu'ils soient pauvres, il faut qu'ils soient rejetés par les autres, il faut qu'ils soient exclus pour que tous comprennent qu'on est béni seulement quand on adhère au christianisme, quand on devient chrétien, quand on est baptisé. Source sans doute d'un antisémitisme chrétien. Et on oubliait que Israël était et le destinataire de ses promesses. Toujours chéri de Dieu, leur dira Jean-Paul II. Vous êtes toujours dans l'Alliance. Vous êtes toujours chéri de Dieu aujourd'hui. Mais on ne s'est pas beaucoup intéressé à la vocation d'Israël. Alors, les Juifs ont toujours vécu un peu de manière, enfin leur mystère, hein, de manière un peu émarginée, un peu à côté, un peu exclu, un peu aux marges. Et Israël a toujours vécu son altérité, ce qui faisait son exception, comme une grâce. Et vivre son ADN, son propre appel, comme une grâce. Ça, c'est déjà, pour nous, c'est important. Même s'ils étaient considérés comme exclus, comme maudits, eh bien, ils ont vécu leur identité propre, leur appel propre, comme une grâce. Je suis ce que je suis aux yeux de Dieu. Et j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est Dieu qui est ma force. C'est d'ailleurs l'étymologie d'Israël. Dieu, force d'Israël, force de Dieu. Dieu est ma force parce que je trouve ma place, même si les autres ne la reconnaissent pas, c'est ma place. Ma place au cœur de la société chrétienne, en étant autre, c'est ma place. Et dans ce lieu qui est le mien, même s'il est au plus bas de la planète, c'est là que je trouve mon ressourcement. C'est là que je trouve ma grâce. Si chacun de nous pouvait le dire, avec son propre ADN, avec sa propre histoire, avec sa propre promesse, c'est en étant à ma place que je trouve ma grâce, que je trouve mon ressourcement. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. C'est beau cela. Et là, Israël nous donne beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Savoir vivre ce que nous sommes à l'instant T. Mais alors, Jean-Baptiste, dans l'Évangile, nous montre qu'on ne peut pas s'intéresser simplement à sa propre vocation, son propre mystère. Lui, il a compris un peu son appel, mais il s'intéresse à l'autre. Il dit, moi je suis là pour que Jésus, le Messie, soit manifesté à Israël. C'est ma vocation. je vais être attentif à la vocation de l'autre, à la grâce de l'autre. Et je vais essayer de discerner dans quel homme, en qui l'Esprit va reposer, va demeurer. Et puis, il va lui être manifesté en Jésus. Alors nous aussi, sans doute, je ne pourrai découvrir mon propre appel que si je m'intéresse à l'appel de l'autre, à la grâce de l'autre, positivement, pas en lorgnant sur l'autre pour en être jaloux, mais lorgner, scruter le mystère de l'autre pour me réjouir de sa grâce, de son appel, et pour, en scrutant l'appel de l'autre, voir davantage mon appel, ma propre promesse. Or ça, c'est une aventure sans fin, mais on peut le vivre si on vit positivement, si je vis positivement mon appel et mes relations avec les autres, ma rencontre avec les autres. Ma rencontre avec l'autre, si je m'intéresse vraiment à lui et à son appel, deviendra une grâce pour moi. On entre dans la semaine de l'unité des chrétiens. S'intéresser à l'autre, aux juifs, s'intéresser aux orthodoxes, s'intéresser aux protestants, discerner leur grâce pour être redynamisé dans mon propre mystère de catholique, ma propre grâce, et pour être témoin pour le monde qu'il y a une promesse à partager si nous cheminons comme ça. Ben écoutez, ça c'est vraiment offrir un message d'espérance que personne ne peut donner si ce n'est nous. Alors essayons de vivre avec joie cette semaine d'unité des chrétiens.